Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, l'ivresse de l'ivraie.
Voilà, bonjour à tous, bonsoir plutôt. Ecclésiaste, simplement un verset que nous allons lire. Il va nous situer dans notre méditation et puis nous allons nous reporter dans le Nouveau Testament tout de suite après. Alors voilà, livre, je le rappelle, livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29. Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Je vais relire ce texte, ce passage. Voici ce que j'ai trouvé, dit Dieu, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Pour expliciter cette parole, j'aimerais que maintenant nous allions dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 et nous allons lire à partir du verset 24. Alors, évangile de Matthieu, Nouveau Testament, chapitre 13, et c'est une parabole que Jésus nous laisse en la circonstance et qui va donner en effet l'explication, qui va mettre en relief pourquoi, eh bien, Dieu, dans ce livre de l'Ecclésiaste, ce livre très ancien, eh bien, nous parle ainsi. Alors, c'est un enseignement, c'est tout simplement une image que Jésus met devant nous, et je la lis maintenant. Verset 24, « Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Voilà, que Dieu nous bénisse à travers cette parabole parmi tant d'autres, hein, sont très nombreuses dans l'Évangile. Alors, Jésus veut attirer l'attention sur une grande question, sur une grande perplexité dans notre monde, parmi les hommes de tous les temps. C'est l'origine du mal. Et c'est vrai que beaucoup de gens, beaucoup d'hommes s'interrogent, pourquoi le mal existe-t-il? D'où vient-il? Et on sait très bien que souvent le premier réflexe, lorsque le mal frappe, on le voit autour de nous, mais lorsqu'il frappe, lorsqu'il s'approche de nous, lorsqu'il nous touche, la première réaction des hommes, c'est tout simplement de mettre Dieu en condamnation pour plusieurs raisons et de lui attribuer finalement eh bien, la responsabilité du mal qui existe dans notre monde, de le rendre coupable. Et d'autant plus de se servir de certains arguments en disant « Mais on nous a dit que Dieu était parfait, que Dieu est bon, que Dieu aime les hommes. Alors pourquoi Dieu? Pourquoi tu permets l'injustice? Pourquoi tu permets la mort? Pourquoi tu permets ces catastrophes comme nous en vivons ces derniers temps ?» Et ça se rapproche, me semble-t-il, hein. Il y a là une accélération. Et personne n'aurait l'idée d'attribuer au véritable auteur, celui qui est l'auteur réel du mal, la responsabilité. Alors on incombe Dieu. Je prends tout simplement ce que j'ai souvent, si souvent entendu, que lorsqu'il y a un mal qui est fait, lorsqu'il y a une erreur, ou lorsqu'il y a une, je ne sais quoi, une inadvertance, vous avez vu comment Dieu est traité par un juron. Voilà. Comme si, eh bien, voilà. Et c'est souvent imprégné de colère, parce qu'on s'est fait mal, parce qu'on a pris un marteau et un clou, et puis on a raté la cible. Alors c'est toujours Dieu qui est responsable. Il est responsable de tout. Responsable de la guerre, responsable de la maladie, responsable de la mort. Et c'est pas ça. Et ce qui montre bien que dans la réaction que peuvent avoir les hommes de tous les temps, une chose que je peux affirmer ce soir, c'est qu'ils ne connaissent pas la Bible. Parce qu'à partir du moment où on connaît la Bible, et particulièrement l'Évangile, et ce que Jésus nous dit, eh bien on ne peut plus attribuer à Dieu la responsabilité du mal. Alors on va aller un peu plus loin, si vous voulez bien. Dans cette parabole proposée, Jésus le fait comme à l'accoutumé, il parle du royaume des cieux, qui est une très belle image, parce que les royaumes de la terre ne sont pas tout à fait à la ressemblance, ils sont tout à fait le contraire. Parce que dans le royaume des cieux, la Bible nous affirme que c'est la vérité, que c'est la justice, que c'est l'amour, qu'il y a là eh bien, toutes sortes de qualités et de fruits qui n'ont rien à voir si l'on prend en considération la manière dont les hommes dirigent par leur gouvernement, leur économie ou autre chose, la manière de conduire finalement eh bien, ce monde. Ça, ce sont les royaumes de la terre. Et le royaume des cieux, Jésus nous en parle. Et il nous dit qu'il est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Donc, c'est une image accessible et compréhensible par tout le monde. Donc, un homme, propriétaire, cultivateur, enfin, on lui donnera un homme de la campagne. Alors, il a fait le choix d'une bonne semence. Il n'ira pas mettre autre chose, hein, s'il veut une récolte qui soit convenable. Alors, il a choisi lui-même. Et dans la semence qu'il a sélectionnée, il sait qu'elle est bonne. Il n'y a aucun doute. Il n'y a rien de mauvais dans cette semence. Elle a été triée, elle a été sélectionnée, je l'ai dit il y a un instant. Alors, il va dans son champ, ou tout simplement, eh bien, son champ est préparé, il a des serviteurs. Ce n'est pas lui qui va faire le travail, mais il mandate. Il va donner la responsabilité de tout simplement d'essaimer, de répandre, de travailler, tout simplement. Mais voilà que Jésus fait intervenir dans son image, à travers cette petite conjonction de coordination. Jusqu'ici, tout est bien. Un homme qui a de bonnes dispositions, il veut une bonne récolte, donc il prend une bonne semence, et son champ a été préparé. Mais cette conjonction, elle fait suite. Mais, voilà le problème. Il y a quelque chose qui va venir en contraste flagrant. Et il nous est simplement rappelé dans cette image, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. On pourrait dire que c'est le jour et la nuit. Et c'est vraiment la nuit. Donc il y a là un monde de clarté dans la première image que nous avons prise. Mais une fois le dos tourné, une fois la nuit tombée, alors à ce moment-là, les serviteurs, après avoir travaillé toute la journée, après avoir répandu cette semence, ils dorment, c'est normal. Mais dans l'obscurité, en catimini, d'une façon sournoise, d'une manière traître, on pourrait dire. Alors, l'ennemi de cet homme, de ce cultivateur, son ennemi, pourquoi ? Eh bien, lui a semé de l'ivraie parmi le blé, et il est parti. Ça, c'est quand même assez curieux. Personne n'a rien vu, personne n'a rien connu. On verra les résultats plus tard. Et c'est ça ce qui est troublant. Parce que si le mal faisait du mal tout de suite, si le mensonge était révélé comme mensonge immédiatement, eh bien, on pourrait dire, ben voilà. Mais on s'aperçoit que tout ça, ça pousse. Eh oui, c'est semé et ça pousse, parce que c'est un principe. Dans le bien comme dans le mal, ça commence souvent par une petite graine, au fond du cœur, dans la pensée, d'une façon ou d'une autre. Qu'on l'appelle la haine, qu'on l'appelle, je ne sais pas moi, la violence, ou la jalousie, ou autre chose. Hein. Ça, c'est le monde de l'iniquité, c'est le monde du mal. Alors, cet ennemi est venu. Il attendait le moment, on pourrait dire. Il savait qu'il ne l'a pas fait avant de semer l'ivraie. Il aurait pu. Mais il l'a fait après, pour que le mélange soit, que la confusion, que le trouble soit au paroxysme, parce qu'on ne va pas faire la différence. Je vais vous parler un peu de l'ivraie d'ici quelques instants. Alors il a semé de cet ivraie parmi le blé. C'est-à-dire, voilà, bien associé au reste. Comment va-t-on discerner les choses? Puisque quand on sait que l'ivraie ressemble étonnamment à un grain de blé. Et le mot « ivraie » en grec a donné le mot « zizanie ». Vous savez ce que c'est la zizanie? Vous avez lu Astérix, mais on n'a pas connu le mot comme ça. Hein. Voilà. Donc, la zizanie, la querelle, la dispute, tout ce qui est véritablement la sournois et qui jette eh bien, le trouble, la confusion. Et on sait également que l'ivraie a donné aussi à cette connotation, je dirais, hein, c'est peut-être pas le même mot, mais a donné la connotation d'ivresse, c'est-à-dire que ça rend les gens fous. Ils ne savent plus ce qu'ils font. Ça les rend ivres. D'ailleurs, paraît-il, hein, d'après les commentateurs, que les oiseaux qui se nourrissent d'ivraie, peut-être se méprenant eux-mêmes en pensant que c'est du blé, eh bien deviennent ivres. C'est ça, ils perdent un petit peu la tête, ils sont un petit peu fous. Donc, le mal, quoi qu'il en soit, rend les gens fous. Hein. Un jaloux, c'est un homme qui est fou. Enfin, un homme ou une femme, hein, peu importe, hein, ça va dans les deux sens. Quelqu'un qui a de la haine rend fou. Et ça lui fait perdre la raison, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de logique, il n'y a plus rien du tout. Hein. Il n'y a plus de cœur, on pourrait dire. Et puis, n'importe quelle situation, si l'on parle de l'alcool, si on parle de la drogue, c'est la même chose, ça rend les gens fous. Ils ne sont plus normaux, quoi qu'on en dise. Alors, voilà comment ça s'est passé. Ça a été semé, et lui, il est parti. Il n'a pas laissé sa carte de visite. Vous voyez de qui je veux parler? Le premier, celui qui est apparu, vous savez, dans un certain jardin. Ce n'était pas un champ. Oh, c'était certainement un beau jardin. Il s'appelait Éden. Et voilà qu'il y avait toute une atmosphère de paix, de confiance, de sérénité entre Adam et Ève. Et ils avaient une relation sans nuages, sans ombre, hein, avec leur créateur. Et à un moment donné, il y a eu l'intrusion de cet ennemi. Alors on l'appelle, dès le départ, chapitre 3 de Genèse, on l'appelle le serpent. Parce que, c'est peut-être pas pour rien, hein. Il est tortueux. Et il nous est dit que c'était un animal rusé parmi tous les autres animaux, et peut-être le plus rusé de tous les animaux. Et si c'est une métaphore, naturellement, hein, vous comprenez. Mais à ce moment-là, eh bien, il s'est adressé, probablement parmi les deux individus qui étaient là, hein, il s'est adressé à la femme. Et il a suggéré, il ne lui a pas dit « tu vas faire comme ça, ceci », non, il lui a suggéré. Il a dit ceci, « Dieu que tu honores, c'est moi qui paraphrase, Dieu que tu honores, Dieu ton créateur, celui qui te bénit. » Alors je cite maintenant le texte, « aurait-il réellement dit ?» Bon, ça y est, c'est le doute qui arrive dans l'esprit. Elle ne sait plus du tout où elle en est rendue, mais est-ce que Dieu nous aurait trompés? Est-ce que Dieu, en nous disant de manger de tous les arbres du jardin, sauf de celui-ci, est-ce qu'il nous aurait leurré? Et l'ennemi revient, il lui dit, mais quand tu auras mangé de cet arbre, tu verras, tes yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme des dieux et vous aurez l'intelligence de toutes choses. Oh, formidable. Ah, il y a de quoi marcher, hein. Être le plus intelligent de tous. Et puis être comme Dieu. Et puis avoir les yeux qui s'ouvrent. C'est formidable, hein. Oui, mais ouvrir sur quoi? Ouvrir sur quoi? Parce que Dieu avait donné l'appellation, la désignation, la qualification de cet arbre. L'arbre, tu ne toucheras pas de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal. Pour l'instant, ils en étaient au stade de connaître que le bien. Et je crois que c'est une véritable complémentarité que nous avons, parce que c'est Jésus qui nous le dit. Je crois que c'est un pendant à l'histoire de la Genèse, et on connaît les conséquences après. Dramatique, puisque nous en sommes encore les victimes, les porteurs, et responsables dans un certain sens, mais innocents d'un autre côté. Eh oui, alors donc c'est Dieu qui va faire la différence et qui va trancher dans tout ça. Hein. Où est la part de l'homme? Oui, son vouloir, son désir, son choix. Ça c'est vrai, on ne remet pas en cause. Mais heureusement que Dieu est bon et qu'il y a une rédemption. Qu'il a envoyé quelqu'un pour nous racheter. parce qu'autrement, ça n'était fini de l'humanité. Ce n'est pas possible. Alors, il est parti. Et depuis probablement des siècles et des siècles, il a joué sur une chose, notre ennemi, dont nous ai parlé. Il a joué sur l'anonymat. Dieu se fait connaître. On est d'accord, il se fait connaître à travers la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il nous parle de ce qu'il est, de ce qu'il veut, de sa volonté, qui est toujours une volonté parfaite. Un désir d'amour, un désir d'aller vers les hommes, de les soulager, de les délivrer, de les sauver. Ça, on le sait. Dieu a dit ce qu'il voulait. Mais l'autre, il parle de quelle manière? Il parle dans les cabinets obscurs, il parle à travers l'horoscope, il parle à travers la magie, il parle à travers l'occultisme, le spiritisme, le satanisme, toutes ces choses. Mais c'est caché, ça. C'est pour ça qu'on l'appelle occulte. Occulte, c'est crypto. C'est-à-dire que c'est caché à la vue. Et il travaille comme ça. Et il n'a jamais cessé de travailler comme ça. Vous dites aux gens, surtout, ne me parlez pas du diable, il n'existe pas. Alors le bien existerait, Dieu existerait, et les conséquences que nous avons du contraire, ça n'existerait pas. Le mal n'existe pas dans notre monde. Quand si je vous parle des guerres affreuses que les hommes se sont livrées, quand je vous parle des sévices que les enfants subissent, quand je parle de la faim, quand je parle de toutes ces catastrophes qui existent autour de nous, ça n'existe pas. Ce que les médias nous rapportent, c'est de pure fantaisie, ça n'existe pas. C'est comme les camps de concentration, ça n'existe pas naturellement. Voilà, tout cela, ça n'existe pas. C'est difficile à croire, hein? Vous croyez que ça existe? Non? Ouais. Alors il est parti. L'anonymat, il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, au printemps vraisemblablement, et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Eh oui, ça pousse ensemble. Vous savez, hein, ne vous faites pas d'illusions. Le monde, il n'est pas tout blanc. Il n'est pas tout noir. Il est gris. Ouais. Il est gris. Et on vit dans le brouillard. Alors, quelquefois, il y a des belles éclaircies comme aujourd'hui. Là, c'est bien. Et le ciel est souvent plus sombre qu'on ne le pense. Alors, nous voyons que le processus de la nature, eh bien, a fait son œuvre, puisqu'il y a eu l'herbe. Ensuite, il y a eu l'épi, le fruit, et il nous est simplement dit que l'ivraie est apparue. Mais comment faire maintenant? Et ça n'a pas échappé aux serviteurs qui avaient ensemencé le champ. Alors ils sont venus voir le maître de la maison, ils vinrent lui dire, « Mais Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Pourtant, tu nous avais assuré, et nous avons confiance en toi, maître. On sait que tu es un homme qui n'allait pas mettre... Eh bien, de la mauvaise qualité, puisque de la mauvaise qualité de la médiocrité, on retire de la médiocrité de la mauvaise qualité. Et ce n'est pas le but. On sait que tu fais toujours le bon choix de tes semences, de ce que tu veux récolter. Donc, ça va ensemble. Comme dira Jésus dans un autre contexte, dans le serment sur la montagne, on reconnaît l'arbre à son fruit. Parce que si vous semez du blé et vous récoltez des géraniums, il y a un problème. Hein. Ben oui, enfin, bon, je ne sais pas, hein, c'est très, très fantaisiste ce que je suis en train de dire, mais c'est simplement pour attirer votre attention. Hein. C'est vrai. Alors voilà, donc, on comprend que là, à ce moment-là, il y a une question qui se pose. Et cette question, depuis des millénaires et des millénaires, nous qui sommes les hommes, à la manière finalement de ces serviteurs qui vont dans la maison du maître en disant « Mais explique-nous ! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu n'as pas semé une bonne semence? Comme les hommes pourront dire, mais la Bible, elle nous dit des choses vraies. Et puis finalement, nous croyons en un Dieu qui est un Dieu bon, un Dieu d'amour. Et puis finalement, le résultat, on s'aperçoit que c'est tout le contraire. Alors ça doit être toi, Dieu, qui certainement, eh bien, tu as fait défaut dans cette affaire. Tu n'as pas été à la hauteur de ce que tu es et tu n'es pas Dieu. Alors à ce moment-là, et les gens commencent à se monter contre Dieu, commencent à se révolter en disant « Ben non, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et on ne voit que Dieu dans cette situation. Alors on le monte à la potence et on le crucifie. Vous savez comment ça s'est passé, hein? Je ne raconte pas d'histoire. « N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ?» Et ils vont poser la question. Et cette question, je le répète encore une fois, depuis des millénaires et des millénaires, les hommes, des millions, des milliards d'hommes se posent la même question. D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie. D'où vient donc qu'il y ait le mal? Pourquoi ces choses abominables? Pourquoi la guerre? Pourquoi cette cruauté? Pourquoi c'est tout ce que nous voyons autour de nous? Pourquoi cette injustice? Pourquoi l'homme piétine-t-il son semblable? L'argent et puis tout le reste. Alors, nous voyons que le maître va répondre avec beaucoup de sagesse, beaucoup de pertinence, et il va leur dire, est-ce que nous avons besoin d'en savoir davantage? C'est un ennemi qui a fait cela. Donc maintenant, l'attention des hommes doit être tournée non plus en accusation de ce Dieu créateur, de ce Dieu qui est bon, de ce Dieu qui est parfait, et vers celui maintenant qui est désigné. C'est un ennemi qui a fait cela. Mais qui est cet ennemi? Qui est cet ennemi? Alors cet ennemi, je dois quand même le préciser, je dirais que c'est un être pensant et intelligent qui a je ne sais combien de longueur d'avance sur les hommes que nous sommes. Parce que je peux vous dire qu'il en a trompé, il en a roulé, et il en a rusé plus d'un. Et il recommence toujours la même histoire, puisque les générations passent. Et aujourd'hui on dit, c'est nouveau. Ah, on ne connaissait pas, bien sûr qu'on ne connaissait pas. Et comme l'homme ne tient jamais compte de l'histoire, parce que chaque fois qu'il y a une guerre et qu'il se finit par un armistice ou autre, on dit toujours c'est la dernière. Et puis quelques 20 ans ou 30 ans ou 50 ans après, on met ça. Donc on ne tient pas compte de l'histoire. L'homme a une mémoire très courte. Et pourtant, c'est un ennemi qui a fait cela. Alors vous savez, dans la Bible, il est parlé abondamment de Dieu, de ses prérogatives, de sa nature, de son amour, de sa grâce, de son éternité, de tout ce qu'il a préparé pour les hommes, parce que c'est pour nous ça, c'est pour nous qu'il l'a fait. Mais il nous est quand même parlé aussi de l'ennemi, parce qu'il faut le connaître. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est quand même fort intéressant, c'est que nous avons besoin, et tous les hommes ont besoin de lire la Bible, parce que ça va changer notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Et tous ceux qui sont passés, et je tiens à le dire, tous ceux qui sont passés par l'expérience de la repentance, d'avoir accusé Dieu, d'avoir indifféré Dieu, de l'avoir maudit, à partir du moment où nous nous repentons de ces faits, que nous prenons toute la mesure de notre culpabilité, alors à ce moment-là, nous recevons le pardon de Dieu, parce que Dieu est venu pour nous pardonner. Il n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous sauver. Et ça, je vais le répéter encore, parce qu'il faut qu'on l'entende. Et ensuite, ça nous amène à ce qu'on appelle une conversion. La conversion, ce n'est pas un changement de religion. Se convertir, c'est changer de vie et changer d'avis. En d'autres termes, en termes militaires, convertir, ou la conversion, ça veut dire changer de direction. Au XIXe siècle, les militaires, on leur disait « convertissez ». C'est-à-dire qu'ils prenaient, ils partaient dans un sens, et quand on leur disait ça, ils partaient dans l'autre. Donc ils changeaient complètement de direction. Eh bien, un homme qui change de direction, ce n'est pas changer de religion, mais c'est de choisir maintenant Jésus, et de suivre Jésus, sa parole, de vivre par la foi. C'est ça, se convertir, avec les conséquences, puisqu'on parlait des fruits tout à l'heure, l'ivraie et le bon grain, c'est-à-dire que, finalement, l'ivraie devient bon grain. Alors, mystère. Mais toujours est-il que c'est la nature même de l'homme qui est changée, non pas par lui-même, non pas par ses efforts, non pas par sa religion, non pas par ses bonnes œuvres, non pas par ses mérites, mais c'est parce que Dieu le change à l'intérieur de lui-même. Et il devient un homme nouveau, une nouvelle création, une nouvelle créature. Alors cet ennemi donc a fait cela. Et la Bible nous parle qu'il faut se méfier de cet ennemi. Il nous est dit qu'il se déguise en ange de lumière. Vous connaissez le texte, hein, dans 2 Corinthiens chapitre 11, si ma mémoire est fidèle. Justement pour circonvenir les hommes, pour les tromper. Eh, il ne va pas venir avec ses gros sabots, comme on dit. Hein. Je suis le diable, regardez, les cornes, si vous n'avez pas vu, hein. Ma queue fourchue. Alors ça, c'est l'imagination, de l'imagerie populaire qui n'a rien à voir avec ce que la Bible nous dit. Non, non, c'est beaucoup plus subtil que cela. Et quand il vient, je peux vous dire qu'il sait à qui il a affaire. Et il trompe. Il trompe le monde entier. Au moment où je vous parle, il trompe les hommes. Il nous a dit que le monde entier gît dans le malin. C'est Jean qui nous le dit dans son épître. Mais il y a une délivrance, il y a un secours. Et il faut regarder en haut, il ne faut pas regarder en bas. Alors, à cela, les serviteurs zélés et prompt à bien faire. Mais quelquefois, le bien, ce n'est pas celui que nous pensons. Parce qu'en voulant faire le bien, on fait le mal, en pensant faire le bien. Alors ils ont dit ceci, les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Ça fait du travail, hein. Faire le tri dans un champ, je ne sais pas combien il y avait d'hectares, mais alors dites donc, imaginez-vous, hein. Alors, et ça, c'est un petit peu la manière des hommes de vouloir réparer le mal par leurs efforts, ou tout simplement avec ce qu'ils pensent être la solution. Et depuis les temps immémoriaux, eh bien, on a voulu bricoler je ne sais quel sélectionneur entre le bien et le mal, à travers des révisions, des philosophies et une pensée qui s'élève universelle en disant « voilà, mais nous allons y arriver à un moment ou à un autre ». Ça ne veut pas dire que les hommes ne font pas quelquefois leurs efforts pour combattre la mort et la maladie. Quand on voit les découvertes médicales, on ne peut que... Moi, je bénis le Seigneur de voir ça. Oui, parce que ça passe aussi par là. La prolongation de la vie des gens, et puis l'amélioration, l'hygiène, et etc. Les hommes qui combattent la guerre, hein. Puis tout ça, bon, d'accord, mais ça reste humain, d'accord. Mais, quelquefois, en voulant faire le bien, eh bien, on fait le mal, c'est-à-dire qu'on fait plus de mal que de bien. Et écoutez la réponse. Veux-tu que nous allions l'arracher ? Parce que finalement, la solution, la réponse, n'est pas dans une théorie, une recette, une méthode. Loin s'en faut. C'est la réponse qui nous est dit. Et le maître va dire, et je prends ce maître comme Dieu, et je dis, il leur répond, non. Alors à tous ceux qui voudraient essayer de faire l'œuvre de Dieu à la place de Dieu, eh bien Dieu leur dit, vous perdez votre temps. Vous allez faire encore plus de dégâts, parce qu'imaginez-vous, hein, vous savez comment ça se passe, vous avez certainement un petit jardin, vous avez au moins une graine dans un pot quelque part chez vous, qui a poussé, et si vous en mettez plusieurs plantes comme ça, vous allez en tirer une, vous allez tirer la mauvaise, mais vous allez arracher la bonne aussi, hein, parce que en surface c'est peut-être séparé, mais dans le sol, imaginez-vous les racines, hein. Alors on prend des risques comme ça, et c'est ça justement. Et le maître dit, non, dit-il, de peur, et c'est tout à fait judicieux, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé, et c'est juste. Ah oui, alors ça, ça fait partie justement de ce que les hommes puristes ont voulu à travers tous les temps. Il y a toujours eu des courants de puristes. Les pharisiens en étaient. Et puis, tous les hommes dans la religion, très souvent, eh bien, veulent faire les choses à la place de Dieu. Alors, ils font toutes sortes de lois religieuses, etc., etc. Et ça ne fonctionne pas. On voit, ça ne marche pas. Ce n'est qu'une illusion. Alors, on a inventé toutes sortes de choses. Si je prends un exemple qui est encore dans nos mémoires, affreux, abominable, ignoble, quand vous avez des régimes comme le nazisme, qui veut faire le tri entre ce qu'ils appelaient le bon blé, le bon grain, et puis les sous-hommes, ben vous savez comment ça s'est terminé? Avec des millions et des millions de gens qui ont été emmenés dans les camps de concentration et exterminés. Voilà les puristes. En politique, je ne sais pas, il y a certainement d'autres dimensions, en religion, ça c'est sûr. Si je vous parle des yalatollahs, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, et bien c'est ça. À partir du moment où il y a une pensée unique et puis que tous les autres doivent disparaître parce qu'ils ne sont pas dignes de vivre, alors c'est quelque chose de terrible. Ça, c'est quelque chose de terrible. Et le maître dit non, parce que vous allez faire du dégât. Et il va même faire le contraire, il va même dire le contraire, il va les retenir au dernier moment. Il va leur dire, mais laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Alors ça, c'est quelque chose d'insupportable. Comment il peut y avoir une cohabitation, une coexistence entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, entre la justice et l'injustice, entre la pureté et l'impureté? Comment est-ce possible? Dans un monde qui se veut être un monde de Dieu, il doit y avoir que le bien. Je vous ai dit, hein, c'est gris, hein, vous en souvenez? Alors il faut vivre avec. Et c'est peut-être pas le plus facile de vivre avec. Parce que celui qui va régler les problèmes, ce ne sont pas les hommes. Ce n'est pas l'homme, même le plus juste, le plus grand qu'il soit, le plus intelligent et le plus spirituel, la suite. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, et si vous regardez l'interprétation, il s'agit des anges. Donc ce ne sera pas les hommes. Il me semble. Hein. Voilà. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ces anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Celui qui a des oreilles entend ce que... Voilà. D'accord ? À l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs. Alors les temps ne sont pas encore venus. Ça va venir. On commence à avoir les signes précurseurs du retour de Jésus et de la moisson qui approche. Alors on pourrait se dire, hein, Seigneur, reviens bientôt. Hein. C'est ce que nous disons, nous. Seigneur, reviens vite. Hein, parce que là, ça commence à... Attendez, on n'a pas tout vu. Hein. On n'a pas tout vu. Dans l'amplification du mal, de l'ignominie, de l'abominable. Ça va venir. Je ne voudrais pas vous faire peur, mais c'est peut-être le moment de choisir de vous mettre du bon côté. C'est pour ça que c'est fait l'évangile, hein. C'est pas pour autre chose. Voilà. Alors, et cet ordre du maître sera destiné aux anges, à la dimension céleste et angélique. Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais assemblez le blé dans mon grenier. Si je reprends la première idée que nous avons eue tout à l'heure, que nous avons lue, hein, que j'ai pris dans le livre d'Ecclésiaste, écoutez, c'est Dieu qui parle. « Voici ce que j'ai trouvé, dit Dieu, c'est que j'ai fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Alors, si le cœur est un champ, un terrain ensemencé, connaissez cette autre parabole qui précède, au chapitre 12 de ce même évangile 2, il nous est dit qu'il y a quatre terrains différents. La semence qui est semée sur le chemin, la semence qui est semée dans les endroits pierreux, la semence qui est semée dans les épines, et puis la semence qui est semée dans la bonne terre. Trois terrains mauvais, un terrain de bon. Et oui, c'est ainsi qu'est notre monde et le cœur des hommes. Et je crois que Dieu affirme, et il le dit encore, c'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais qu'un ennemi est passé par là. Il est passé de nuit. Il a surpris l'homme. Certainement que Dieu, que l'homme lui a donné allégeance, lui a fait allégeance à cet ennemi. Autrement, il n'aurait pas pu rentrer. Et dans cette faiblesse humaine, qui est le commun des mortels, alors on a pensé que on pouvait probablement s'accommoder de demi-vérité, de demi-lumière, de demi-justice, de demi-demi-demi-demi. Mais quand il y a deux sur le terrain, eh bien ça fait ce que nous avons vu comme résultat, le mélange de l'ivraie et de la droiture. Je ne veux pas dire que les hommes sont tous immoraux, je ne veux pas dire qu'ils sont tous menteurs, je ne veux pas dire qu'ils sont tous criminels, ceci et cela, mais comme il y a les deux. Et on peut être d'un côté tantôt, et puis d'un autre côté, de l'autre. On est capable des deux, hein, je ne sais pas, vous êtes... À moins que quelqu'un me dise, moi, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais pensé de mal de quelqu'un, je n'ai jamais eu de ressentiment, jamais de haine. Alors, excusez-moi, hein, je prendrai un petit moment, vous viendrez me voir tout à l'heure. Et je vous prendrai en photo. Ça vaut la peine. Non, mais on est porteur de tout. D'un côté comme d'un autre. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Permettez-moi, avant de terminer, pour illustrer un peu notre propos, de cette infiltration de l'ennemi dans notre monde, au milieu des hommes, même parfois au milieu de l'Église, eh oui, il a ses entrées quand on lui ouvre la porte, hein. Permettez-moi de le dire. Eh bien, moi je voudrais simplement vous rappeler quelques petites choses, quelques passages, parce que ça, vous l'entendez tous les jours, que vous lisiez les journaux, que vous preniez la radio, la télévision, et puis même, c'est partout, hein. Alors, ça, on ne peut pas dire que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je vous dis que l'ennemi est à l'œuvre quand il anesthésie les gens pour leur faire oublier leurs cauchemars dans leur misère. Et il les abrutit avec toutes sortes de choses. Ouais. Les hommes sont malheureux. Souvent à cause de leur faute, parce qu'ils savent qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, ils les font quand même, ils en ont les fruits. C'est pas toujours immédiat. Et au bout d'un certain temps, ils se disent, ben voilà, je suis coincé, je suis prisonnier, je me suis mis dans une situation où je ne peux plus m'en sortir. Alors, l'ennemi vient, il dit, t'es malheureux. Oh, ben écoute, je peux arranger ça si tu veux, je vais te donner un petit peu de bonheur. Tu vas voir, ça, moi, j'ai la... J'ai... Donc, les hommes vivent dans un cauchemar. Ils vivent dans l'angoisse, ils vivent dans la peur, ils vivent dans toutes sortes d'états dépressifs et morbides. Alors, à ce moment-là, pour les faire sortir de leur misère, de leurs pensées noires et de leur obscurantisme, il leur dit, ben écoutez... Moi, je vais vous donner un petit peu des choses qui vont vous requinquer. Et c'est l'abrutissement, soit par l'alcool, soit par la drogue, soit par toutes sortes de folies, par toutes sortes d'aventures, par toutes sortes de fantaisies. La vitesse, on en reparlera d'ici quelques instants. Et, bon, l'aboutissement de tout ça, ça se termine encore plus malheureux. On a cru au bonheur et finalement, le bonheur a disparu. Parce qu'à ce moment-là, si c'est lui, l'ennemi qui nous le présente, vous savez ce qu'il nous présente ? Un mirage. Et vous savez ce que c'est qu'un mirage ? Vous pouvez toujours courir après. C'est du rêve. C'est une chimère. Et des millions de gens marchent avec des chimères. Ils croient au bonheur. Et pas ce bonheur-là. C'était David qui disait dans le psaume 4, « Mais qui nous fera voir le bonheur ?» Vous connaissez le texte, hein ? Eh oui, ça c'est le monde d'aujourd'hui. L'ennemi est à l'œuvre quand il corrompt l'activité sociale des hommes. Je ne prends que cet exemple. À travers l'appât du gain, l'argent, la gloire, le pouvoir qui transforme l'homme en machine de production. Voyez, on est en plein dedans, là. Pourquoi les gens sont mécontents? Pourquoi manifestent-ils? Pourquoi associer cela? Il y en a un qui les excite. Alors, on est dans un pays civilisé et pacifié, mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand le diable arrive à mettre les classes sociales les unes contre les autres, les pouvoirs, affronter les pouvoirs, quelquefois ça fait de la casse, ça fait des morts. Hein. Voilà. Prenez le pouvoir avec telle ou telle politique, ou telle ou telle économie, et vous allez voir, ça va marcher. Puis alors ceux qui ont pris le pouvoir, après ils deviennent les maîtres des autres, et puis ils se disent maintenant on a notre place, et on ne bouge plus. Hein. Et c'est eux qui deviennent des dictateurs et des tyrans. Vous ne croyez pas que ce n'est pas l'histoire, ça ? Et il y en a un qui tire les ficelles derrière. Hé, je vous ai bien eu, hein ? Ça changeait seulement de personnage. C'est tout. C'est terrible. Hein, parce que depuis que le monde est monde, les conflits sociaux, entre les riches et les pauvres, entre ce que vous voudrez, hein, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas ça le but, mais ça a toujours été comme ça. Les gens qui ont peut-être laissé leur vie là, au fond des mines à travailler pour un morceau de pain alors que c'est pas injuste ça. Eh oui. Et il y en a un qui se frotte les mains en disant « Allez-y, allez-y, travaillez. » Les autres s'enrichissent. C'est très bien. Ce n'est pas une pensée... Je ne fais pas de la critique primaire, hein, mais c'est une constatation de fait. Je dis que l'ennemi est à l'œuvre quand il entasse, et vous allez voir, c'est très bien d'actualité, quand il entasse des milliers d'individus dans des ensembles urbains. Parce qu'aujourd'hui, on n'appelle plus ça des métropoles, on appelle ça des mégapoles. Hein, dans certaines parties du monde, et même encore chez nous, des ensembles urbains que je nommerais concentrationnaires, des ghettos, des zones de non-droit. On entend parler tous les jours, où vous avez du bruit, où vous avez de l'insécurité, où vous avez de la promiscuité, et vous avez du racisme. Vous le mettez ensemble, mais vous avez une formidable bombe avec ça, hein. Même les pouvoirs publics ne peuvent même plus rentrer dans certains endroits. Parce qu'il y a une loi, qui n'est pas la loi du pays ou la loi civile, mais une loi, bon, je dirais pas le mot. Et ça fait des troubles. Mais quand il y a des troubles, l'ennemi qui est venu de nuit, parce que ça se passe la nuit ça aussi, hein, en plein jour, le jour il dort, la nuit on se réveille. Mais... Et je peux vous dire que c'est détonnant, ça fait vraiment des cocktails Molotov. Alors, surtout quand il fait chaud l'été, les gens sont... Vous y mettez de la drogue, de l'alcool, et puis tout le reste qui va avec, eh bien je peux vous dire que il a réussi son coup. Je poursuis. L'ennemi est à l'œuvre dans notre société, dans notre monde, quand il dénature les plaisirs. Dieu a fait des choses bonnes pour l'homme, pour qu'il puisse s'épanouir, pour qu'il puisse se détendre, pour qu'il puisse se reposer. le mot plaisir n'a pas qu'une connotation coupable. Loin s'en faut. Parce qu'alors à ce moment, c'est nier complètement les intentions de Dieu pour ceux qui l'aiment. Donc, le plaisir, les loisirs, et vous avez des gens qui n'ont pas trouvé mieux, parce que c'est vraiment un état d'esprit. Hein. Vous connaissez l'histoire du mouton de Panurge, les modes. Il y en a un qui fait, tout le monde fait la même chose. Et au résultat aussi, tout le monde se fait avoir. Hein, parce qu'il y a des slogans, il y a toutes sortes de choses. Quand je vous parle de la vitesse, aujourd'hui, il y a quand même une petite amélioration quand même. Hein. Et quand on voit des gens qui sont fous en voiture, au mépris du respect des autres, qui roulent à des vitesses excessives, qui ne respectent rien, et quelquefois ça se termine à la morgue, et pour les innocents, la folie de la vitesse, l'excitation, l'ivresse, finalement, et bien de... Ouais, quelquefois ça ne bouge plus du tout, hein, et ça ne bougera jamais plus. La musique, là c'est pareil, hein, c'est pas une condamnation, mais... Il y a certainement des musiques qui sont bonnes et saines, mais il y en a d'autres, quelquefois, moi je m'interroge. J'ai été jeune et j'ai vieilli. J'ai eu mon temps. Mais quelquefois, je me dis, même dans mon temps, je me dis, là, il y a quelque chose qui est bizarre. Vous savez, une musique où il y a une connotation, où il y a du morbide derrière, des têtes de mort, enfin, des bruits, toutes sortes de choses, avec tout ce que cela peut véhiculer d'ivresse qui amène les gens à se comporter comme des bêtes et des animaux, même entre les deux sexes. Voilà. L'impudicité, l'impudeur et toutes sortes de choses, de faire n'importe quoi. Nous, on a connu un petit peu 68, hein, c'était pas triste à l'époque. En plus, j'étais à Amsterdam. À ce moment-là, c'était quand même... Eh oui, j'étais pas converti à l'époque. Hein. Mais le Seigneur m'a gardé de tous ses souillures. Je tiens quand même à le dire. Je les ai vues, elles étaient tout autour de moi. Tous mes copains, ça y est, c'était parti. Hein, les coffee bars et puis tout le reste. Il y avait de la fumée, hein, tout autour. Et je ne connaissais pas le Seigneur encore. Le Seigneur m'a dit, toi, tu ne touches pas ça. Ben, c'est bien, je bénis le Seigneur aujourd'hui. Hein. Et je l'ai vu, et je sais. Alors il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de malheur. Hein. Parce que tous ces jeunes, d'hier comme d'aujourd'hui, cherchent un idéal. Ils cherchent un avenir dans un monde incertain, un monde qui ne leur promet plus rien du tout. Et puis ils ont pensé que c'était dans toutes sortes de dérives, dans toutes sortes de délucubrations, qu'ils pouvaient trouver le bonheur. Et ça en a fait des locks s'ils ne sont pas morts. Moi j'ai vu des jeunes mourir sous mes yeux, de la drogue. Terrible. Des beaux garçons et des belles filles. Terminé. C'est terrible. Qui c'est qui leur a suggéré ? Regarde, tu es libre, oui. Tu es libre, mais tu n'as plus la vie. Tu crois que tu es libre, mais tu es captif, tu es prisonnier, parce que pour se défaire de certaines choses, vous pouvez y aller, hein, pour pédaler. Hein. Terrible. Passer par le poulet froid, vous connaissez l'expression. Terrible. Alors, il dénature les plaisirs, les loisirs, les rassemblements passionnels, quand on en arrive à un stade de football, où que les gens se tapent dessus et qu'il y a des morts, bravo le sport, hein. Ce n'est pas le sport qui est en mise en cause, c'est terrible. Hein, les films, la littérature abétissante, et puis toutes sortes de choses, la vulgarité, la grossièreté, qui devient le commun aujourd'hui. Je dis que le diable est à l'œuvre quand il s'emploie à démanteler les fondements de la société, à commencer par la famille et le couple. Les gens qui se sont dit « je t'aime » au départ, qui se sont dit « je t'aimerai toute ma vie », quelquefois ça ne peut durer qu'un jour. C'est un peu court quand même. Eh oui. Je ne peux plus te supporter. Alors ça s'enchaîne, ça se dégénère et ça fait toutes sortes de choses. Et s'il y a des enfants, eh bien ça fait des malheureux. Et quel exemple, quel repère, quel modèle pourront-ils avoir? Alors ils s'amusent, le diable, je dis bien. Les hommes sont les victimes, certainement consentants. Mais démontage systématique et très subtil des institutions, du respect des autorités, de l'éducation, le respect d'autrui. Et on entend des choses, hein, par exemple, dans les lycées, dans les collèges, vous avez des gamins, et maintenant, à 10 ans, ils arrivent avec une arme. Wow. Et aux États-Unis, ils ne se gênent pas de prendre vraiment des armes de guerre, et puis ils tirent sur leurs copains et leurs camarades, et on apprend qu'il y a eu 15 morts, 20 morts, et tout ça, mais c'est ahurissant. Qui c'est qui est derrière? Et qui c'est qui entretient peut-être justement tout cela? Voilà, il est à l'œuvre, je crois qu'on ne peut pas dire autre chose. L'ennemi est à l'œuvre quand il se fait l'instigateur de la destruction, la violence, la guerre, la haine, la jalousie, les révoltes, la rébellion. Vous savez, c'est facile de monter un peuple contre un autre. Il suffit de lui apporter toute la pâture, tout le stimulant en disant « Attention, regardez cela, ce sont vraiment nos ennemis. Vous avez vu la tête qu'ils ont ? Alors on va vous donner ce qu'il faut et puis vous allez les combattre. » Il y a de la haine dans notre monde aujourd'hui. C'est terrible. Et quelquefois, je le dis à mon époux, je me dis « Mais on est assis sur un baril de poudre et je ne me demande pas comment ça ne saute pas encore. » Il y a encore quand même des choses qui le maintiennent. Et moi, je crois que celui qui maintient cela, c'est encore le Seigneur. Parce que s'il y avait que le diable, je crois que tout ça, ça serait volé en éclats. Vous voyez, ce ne serait certainement pas le volcan de l'Islande. Il est tout petit à côté. Terrible, terrible. L'ennemi est à l'œuvre quand il répand son ivraie dans l'âme des hommes. Je dis bien dans l'âme des hommes, à travers des religions, à travers des philosophies, à travers des pensées qui sont toujours novatrices, qui sont toujours quelque chose de nouveau, on pourrait dire ça comme ça, et qui arrive avec ses doctrines à vacciner contre tout ce qui a trait à Dieu, tout ce qui a rapport à Dieu et son salut. Il immunise les créatures de Dieu avec de fortes doses d'indifférence. Dieu n'existe pas. Et Dieu, pourquoi faire ? Ou avec de l'incrédulité. Bon. Est-ce que Dieu aurait réellement dit ? C'est toujours la même chose. Ou d'athéisme. Ou de philosophie existentialiste. Comme ça a été finalement la caractéristique de notre siècle dernier. Et vous savez ce que ça fait ? Ça fait une société morbide. Une société dépressive. Une société qui ne veut plus vivre. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des... Combien ? 13 000 suicides ? 250 000 tentatives de suicide par an, dont 12 000 arrivent à leur fin. C'est ça la vie ? Voilà. Tu prends des cachets, tu te mets la tête dans la gazinière, et puis tu ne souffriras plus. Mensonge ! Une dernière chose, c'est beaucoup plus subtil, le diable est à l'œuvre, quand il agit pour ceux qui ont un petit peu une tendance spirituelle. Mais de quel côté ? De quelle nature est cette spiritualité ou ce spiritualisme plutôt ? Est-ce que c'est un spirituel divin ou est-ce que c'est un spirituel malin ? Alors il se sert de l'occultisme. Il met dans le cœur des hommes la pas du gain, la recherche de l'avenir, pour contrer la peur et leur crainte, le monde incertain pour les rassurer. Et il a toute sa panoplie dans des cabinets obscurs, et les gens vont voir tel ou tel, ayant ou possédant quelques dons de divination, de révélation et tout ça, de quelque manière que ça se produise. Et là, les gens entendent, croit-il la vérité ? Ce n'est pas la vérité, c'est du mensonge pur. Et même s'il y avait 98% de vérité, il y a 2% de poison mortel qui va les décimer, qui va les emporter. L'occultisme, la magie, la curiosité du surnaturel. Alors là, nous avons vraiment besoin de faire attention, parce que le monde marche avec ça. Il n'y a jamais eu autant de surnaturel, autant de spectaculaire, mais dans ce sens, je veux dire. Le diable est capable d'en mettre plein la vue. Et ça, c'est de la poudre de perlimpinpin, pour ceux qui connaissent... C'est vieux ça. Mais les gens y croient. Et ils y retournent. Et plus ils y retournent, plus ils sont accros. Et ils se disent quelquefois, mais voilà, je ne peux plus m'en passer. Il faut que j'aille voir mon ceci ou cela pour qu'ils me disent ce qui va se passer. Et ça devient une angoisse, ça devient une terreur. Et les gens sont ligotés. Ils sont comme Samson. Vous savez, Samson. Au départ, ça ne se voyait pas. Dalila, là, qui le ficelait fil après fil. Un petit fil, mais quand vous en avez 1000 autour de vous, vous ne pouvez plus bouger. Et c'est exactement cela. Et le diable lie les gens par l'occultisme, par la crainte, par toutes sortes de choses, par ce surnaturel qui ne vient pas de Dieu. Alors écoutez, moi je crois que, comme nous l'avons lu tout à l'heure, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Alors c'est peut-être encore le moment de faire un détour, mais vers le Seigneur. De se tourner, ça s'appelle la conversion. De lui demander pardon. Si vous avez touché à l'occultisme, bien demander pardon et Dieu va vous pardonner. Parce que Dieu est un Dieu de pardon. Si vous avez fait, quelle que soit votre vie, votre passé, invalidant soit-il, et si vous en souffrez, et que si vous désirez une vie nouvelle, une vie d'épanouissement, comme Jésus nous le dit dans la parabole du bon berger, je donne ma vie pour mes brebis afin qu'elles aient la vie en abondance, eh bien venez la chercher. C'est le Seigneur qui la donne. Et il n'y a que la capacité de Dieu de changer la nature des choses. Dieu avait commencé à faire le bien, avait fait le bien, ça s'est changé en mal. Et aujourd'hui, à travers la rédemption en Jésus-Christ, à travers ma foi en Jésus, il est capable de changer maintenant, dans l'autre sens, le mal en bien. Est-ce que vous aimez la vérité? Est-ce que nous avons l'amour de la vérité? Est-ce que nous avons l'esprit de la vérité? Eh bien, venez à Jésus. Je termine sur une dernière parole. Quand Pilate a posé la question à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Jésus lui a répondu, quiconque est de la vérité, écoute ma voix, écoute ma parole. Écoutez la parole de Jésus, parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous dévoiles une page de la vie des hommes. Une page qui nous montre, Seigneur, où se trouve la lumière, mais où se trouvent aussi les ténèbres. Nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que tu veux nous donner à chacun le courage de regarder les choses en face. Non pas, Seigneur, avoir un regard sur le monde qui nous environne, parce qu'il est ce qu'il est, mais tu l'aimes, ce monde-là. Tu l'aimes au point que tu as donné Jésus, pour qu'il puisse être sauvé, qu'il puisse connaître, Seigneur, ton pardon et la vie éternelle dans ta présence. Mais nous croyons, Seigneur, que c'est aussi pour nous. Nous avons peut-être besoin de passer un regard sur nous-mêmes et te dire, mais Seigneur, je te demande d'enlever l'ivraie de mon cœur qui m'empoisonne, qui est peut-être parfois une sorte d'ivresse qui me fait perdre la tête. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous conduises et tu nous diriges vers toi. Et de me souvenir, Seigneur, que nul ne peut venir au Père que par toi, parce que tu es le chemin. Alors si tu es le chemin, je te suis. Tu nous dis, Seigneur, que tu es la vérité. Alors si tu es la vérité, je te crois. Et puisque tu es la vie, alors moi je vais de cette vie-là, pas d'une autre. La vie éternelle et la vie, Seigneur, de ton esprit en moi, dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Bénis mes amis. Bénis ceux qui entendent ta parole, ceux qui l'entendront dans le cours du temps. Et nous voulons te remercier. Je te demande de les bénir tous. Au nom de Christ. Amen. Amen.